Bonsoir. Après avoir chanté la grâce, on va prêcher la grâce maintenant. C'est un très beau cantique en passant. Merci à René. Vous savez, ceux qui président, ceux qui jouent de la musique, c'est tout un ministère, ça. Que le Seigneur dirige ces chants-là. Puis je pense qu'effectivement, ce soir, c'est Corinne Almille. Donc, on va prêcher sur la grâce. J'étais avec vous il y a 2 semaines, donc... Ça passe vite, mais en tout cas, je suis content de revenir aussi rapidement. Il y a des pauvres jeunes qui viennent à grand-mère depuis quelque temps à l'occasion, donc ils vont me subir une fois de plus, mais j'espère qu'ils vont passer au travers. La grâce. Je trouve ça intéressant. Effectivement, chaque cantique avait le mot « grâce » dedans. Il n'y a pas de chant sans grâce. Il n'y a pas de vie sans grâce. Il n'y a pas de salut sans grâce. Et la dernière fois, si vous n'étiez pas là, j'allais dire, le gars il dit, vous n'avez rien manqué, ça ne va pas bien. Non, mais... Lors de ce qu'elle est. Non, mais si vous n'étiez pas là, ce qui va apparaître à l'écran, ça va résumer tout ce qu'on a vu la dernière fois, donc vous ne serez pas perdu par rapport aux pensées de ce message. On s'est laissé la dernière fois, pour ceux qui étaient là, sur cette pensée. Tes pires journées ne seront jamais si pires que tu sois hors portée de la grâce de Dieu. Et tes meilleures journées ne seront jamais si bonnes que tu sois hors besoin de la grâce de Dieu. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours, en bon québécois, on a toujours besoin de la grâce de Dieu. Et c'est la beauté de l'affaire, c'est que la grâce de Dieu me sera et te sera toujours disponible. Et tu auras et j'aurai toujours besoin de la grâce de Dieu dans les bons jours et dans les mauvais jours. Et donc, quand ça va bien, il ne faut pas penser qu'on n'a pas besoin. Quand ça va mal, il ne faut pas penser qu'elle n'est pas disponible. Elle est toujours là, la grâce. Et chaque jour de notre expérience chrétienne devrait être un jour où notre relation avec Dieu est basée sur sa grâce seule. Non seulement sommes-nous sauvés par grâce, mais n'oublions pas qu'on vit aussi tous les jours par grâce. Et la grâce vient à travers Christ. La dernière fois, quand j'étais venu, j'avais posé la question, quel est le plus grand thème des Écritures? C'est la grâce. Quel est le plus grand besoin de l'être humain? C'est la grâce. Et j'avais fait remarquer pourtant que Jésus-Christ, dans les Évangiles, du moins, on ne le voit même pas mentionner ce mot-là. Assez étonnant. Et j'avais dit, pas besoin de le mentionner, il est la grâce. C'est la grâce incarnée. Ses paroles étaient toutes de grâce. Ses actions étaient toutes de grâce. Hein? Cette parole qui était faite chair, elle a habité parmi nous comment? Pleine de grâce et de vérité. Donc, Christ, c'est la grâce. Et la grâce est venue à travers Christ. Tournez avec moi dans Romains chapitre 3, si vous avez vos Bibles. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3 et le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ça c'est l'état de l'être humain, et ils sont gratuitement justifiés par quoi? Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors grâce et Jésus-Christ sont ensemble. C'est notre salut, c'est notre moyen de salut. Romains 5, 2. On peut lire le verset 1 pour le contexte. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Quel privilège! Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et j'aime bien la version Darby plus littérale, cette faveur dans laquelle nous sommes, c'est un état permanent. Une fois qu'on est sauvé par grâce, on reste sauvé pour toujours par grâce. Cette faveur dans laquelle nous sommes, j'aime bien cette expression plus littéraire. On reste toujours dans cette faveur, dans cette grâce. Vous savez, une partie significative de la loi de Moïse était la promesse de bénédiction pour l'obéissance et de malédiction pour la désobéissance. Tournez avec moi dans Deutéronome 28 dans l'Ancien Testament. Deutéronome 28. Et le verset 1. Je rappelle pourquoi j'avais à cœur une série sur la grâce, c'est que souvent on réalise et on accepte facilement qu'on est sauvé par grâce, mais tout à coup, on me semble qu'on réalise aussi, on vit nos vies chrétiennes comme si on vivait par nos œuvres, ou on restait sauvé par nos œuvres. Alors c'est pour ça que c'est pour un petit peu là, démystifier tout ça, puis briser ce moule-là dans lequel des fois on plonge au fil des années, de vivre une vie chrétienne basée non plus sur la performance de Christ, mais sur notre performance à nous autres. Alors c'est pour ça que je vous propose cette série sur la grâce. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 15. Mais, oups, le bâton de baseball qui se... Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Or, certains chrétiens vivent comme si ce principe s'appliquait à eux aujourd'hui. Hein? Si je connais une bonne journée spirituelle, le Seigneur va me bénir. Si je connais une mauvaise journée spirituelle, il va sortir le bat. Mais allons voir ce que dit Paul dans Galates 3, 24. On va retourner dans le Nouveau Testament. Là. Vous allez voir que. On va aller voir quelques textes. Galates 3, 24. Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, mais pour nous conduire à Christ. C'est quoi le but? Afin que nous soyons justifiés, non pas par la loi, mais par la foi. Je suis donc soulagé de ça. Ouf. Et rappelons-nous ceci, c'est que Christ lui a déjà porté les malédictions de notre désobéissance. C'est fait, ça. Et il a gagné pour nous les bénédictions de l'obéissance. C'est fait, ça aussi. Rappelons-nous ça. Comme résultat, nous devons maintenant regarder à Christ seul pour les bénédictions dans nos vies. Pas Christ plus notre performance. Non, seulement Christ. Et c'est pour ça que je répète, nous sommes sauvés par grâce et nous devons vivre par la grâce seule. Tournez nos textes dans Jean chapitre 1 et verset 17. Verset 16 pour le contexte. Jean 1, 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, hein, avec ce que ça implique quand on le lit dans Deutéronome, si tu obéis, ça va bien aller, si tu n'obéis pas, ça va mal aller. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est pas merveilleux, ça. Quelle belle vérité. Je vais vous citer Charles Swindoll, peut-être certains d'entre vous le connaissez, qui a déjà dit ceci. J'ouvre les guillemets. Avec la loi mosaïque, hein, la loi de Moïse, vinrent des exigences et des règles. À celles-ci s'ajoutèrent d'autres exigences exaspérantes qui suscitèrent l'enthousiasme des pharisiens. Ils en mettaient de la loi. Ces derniers allongèrent non seulement la liste de lois, mais accrurent aussi la culpabilité et la honte du peuple. Imaginez comment le peuple va être sous un fardeau incroyable. Obsédé par le devoir, la conduite extérieure et préoccupé de façon exclusive par le bien et le mal, et surtout dans la vie des autres, les autres étaient corrects, ils érigèrent un système si exigeant qu'il ne restait plus de place pour la joie. Ça doit être assez pénible d'être sous le joug des pharisiens. Par la suite, l'esprit de jugement se développa et ce système religieux néfaste poussa ses adeptes à soigner les apparences aux dépens de l'authenticité intérieure. L'obéissance devint une contrainte cruelle au lieu d'une joie débordante inspirée par l'amour. Toujours dans la citation. Toutefois, quand la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, les prisonniers religieux commencèrent à expérimenter la liberté. Le terrible esclavage entraîné par un sentiment de culpabilité céda la place au désir nouveau de suivre Jésus-Christ en vérité avec un dévouement sincère et joyeux. Au lieu de se concentrer sur les accomplissements de la chair, Jésus souligna l'importance du cœur. C'est tout le sermon sur la montagne en passant. Au lieu de demander aux pécheurs de satisfaire une longue liste d'exigences, il mit l'accent sur la foi, même aussi petite soit-elle. Ce changement signifiait la liberté, comme le Seigneur lui-même l'enseigna dans Jean 8, 32. Il a dit ceci, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Vous affranchira. » Je poursuis, je termine la citation. « Une religion rigide et stérile céda enfin la place à une relation inspirée par la grâce libératrice. » Fin de la citation. Et donc, quand nous prions Dieu pour sa bénédiction, il n'examine pas notre performance pour voir si on en est digne de cette bénédiction-là. Plutôt, il regarde pour voir si nous mettons notre confiance dans le mérite de son Fils comme notre seul espoir pour sécuriser sa bénédiction. Et je le répète, nous sommes sauvés par grâce et nous devons vivre par grâce chaque jour de nos vies chrétiennes. Faisons attention de ne pas retomber dans une sorte de légalisme. Maintenant, si c'est vrai que notre relation avec Dieu est basée sur sa grâce au lieu de notre performance, pourquoi on est quand même, malgré ça, enclin à tomber dans cette manière de penser du type « bonne journée spirituelle » et « mauvaise journée spirituelle » ? On va considérer une simple ligne de temps de ta vie, de ma vie, telle que montrée par cette illustration. C'est pas trop petit, c'est un petit peu petit, mais... Donc, si on prend ta vie, je parle en prenant pour acquis que tu es croyant. La vie d'un croyant, c'est quoi? Ça commence par une naissance. Il y a une mort, mais il s'est passé de quoi entre les deux? Il y a le salut. Et indépendamment de ton âge, quand tu as fait confiance à Christ, la croix est venue diviser ta vie entière en deux périodes, et ma vie entière aussi. On était incroyant et à un certain moment donné, on est devenu croyant. J'espère que c'est la réalité pour tout le monde ce soir. Il n'est pas trop tard pour le devenir. Et comme chrétien, toutes nos vies se résument comme suit, avant la croix et après la croix. La croix est venue changer nos vies. Maintenant, en ayant cette ligne de temps à l'esprit, quel mot décrit le message biblique dont on avait le plus besoin d'entendre comme incroyant? Ça, c'est incroyant-croyant, un petit peu de la différence. Mais le mot qu'on avait besoin d'entendre, c'est l'Évangile. C'est ça que l'incroyant a besoin d'entendre. Et c'est ça que j'avais besoin d'entendre et qu'on avait besoin d'entendre, c'est l'Évangile. Romains 1, 16 dira que l'Évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Pour quiconque croit, il n'y a pas d'exclusion. On a besoin d'entendre que Jésus est mort pour les pécheurs, est mort pour moi, est mort pour toi, parce que tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu, on l'a vu tantôt. Et tous ont besoin d'entendre que si nous venons à lui dans la foi, pas question de religion là-dedans, pas question d'œuvre, mais si nous venons à lui par la foi, nous allons recevoir le pardon de nos péchés et le don de la vie éternelle. Et c'est un fait que ce message peut être présenté de différentes façons, mais ça doit toujours être l'Évangile. C'est ce qu'on a besoin d'entendre et c'est à quoi nous avons besoin de répondre comme incroyants. Alors, si on reprend la ligne du temps de ta vie, de ma vie comme croyant, il ressemble à ça. Donc, avant d'être sauvé, j'avais besoin d'entendre parler de l'Évangile. Maintenant, quel groupe de mots décrit le message que nous avons le plus besoin d'entendre maintenant que nous sommes croyants? On peut résumer diverses réponses sous ce groupe de mots, formation disciple. Une fois qu'on est sauvé, on a besoin d'entendre ce qui est rattaché à être formé comme le disciple de Christ. C'est ça qu'on a besoin d'entendre, croit-on du moins. Après tout, c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il n'a même pas dit des croyants, des disciples, des, en québécois, des suiveux. On suit Jésus-Christ. On veut devenir comme notre maître. Et on entre comme chrétien, une fois sauvé, dans cette formation de disciples. Comme croyants, nous sommes continuellement confrontés aux demandes et aux tâches que nécessite notre formation de disciples. Et ces demandes et ces tâches comprennent des choses telles que les disciplines spirituelles. Donc, une discipline spirituelle, lorsqu'on veut devenir un disciple de Christ, ça implique des disciplines spirituelles dans nos vies. Un temps de culte, par exemple. Et je pense que c'est important de lire la parole de Dieu au quotidien. Ça demande l'étude de la Bible, donc la prière, l'adoration, la fréquentation d'une église locale, etc. Ça, ça fait partie de la formation de disciples. Ça fait partie des disciplines spirituelles. L'autre point, c'est la sainteté aussi. Ça fait partie de la formation de disciples. L'obéissance à la volonté morale de Dieu telle qu'établie dans la Bible, hein, c'est ce qu'on appelle la poursuite de la sainteté. On est appelé à poursuivre la sainteté. Puis finalement, troisième partie de la formation de disciples, c'est le service. Hein, service aux autres, implication. Le ministère pour le royaume de Dieu, dans le fond. Alors, tout ce qu'on a besoin de faire comme croyant est probablement inclus dans ces trois mots qu'on a devant nous ce soir, discipline, sainteté et service. Voilà maintenant à quoi ressemble notre ligne de vie. Avant de venir au Seigneur, on avait besoin d'entendre l'Évangile, puis après, c'est formation de disciples avec les trois volets de discipline, sainteté et service. Du moins, cette ligne de vie illustre comment on a tendance à voir la vie chrétienne. L'Évangile pour les non-croyants, dans le fond, et les tâches du disciple pour les croyants. Maintenant, je ne remets pas en question notre emphase sur ce qui entoure le fait d'être disciple. C'est ce que Dieu veut, que nous soyons formés comme disciples. Et s'il y a de quoi, on a besoin d'être davantage encouragés et enseignés au sujet de ce trépied de la vie chrétienne qui est la discipline personnelle, la sainteté et le service. Alors, je ne suis pas en train de remettre en question l'emphase et l'importance de ça. Mais il y a quelque chose de plus fondamental que la formation de disciples une fois qu'on est sauvé. Quelque chose qui procure l'environnement nécessaire dans lequel la formation de disciples peut être pratiquée. Et le mot qui décrit ce que nous devons continuer à entendre une fois sauvés, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Nous avons besoin de continuer à entendre l'Évangile chaque jour de nos vies chrétiennes une fois sauvés. Seulement un rappel continu de l'Évangile de Dieu de grâce, du Dieu de grâce à travers Christ, va nous garder de tomber dans cette pensée de la bonne et mauvaise journée, où nous pensons que notre relation quotidienne avec Dieu est basée sur combien bon on a été cette journée-là. La grâce de Dieu au quotidien. C'est seulement la joie d'entendre l'Évangile, de se rappeler que nos péchés sont pardonnés en Christ, comme on l'a chanté ce soir. C'est ça qui va nous garder de voir comme une corvée les exigences reliées à la formation de disciples. C'est seulement la gratitude et l'amour envers Dieu qui découlent du fait de savoir qu'il ne nous impute plus nos péchés. C'est ça qui procure le bon motif pour répondre aux demandes de la formation de disciples. Dans le fond, notre formation de disciples doit se faire dans un environnement de grâce. Tournez avec moi dans Romains 4, verset 7. Quel beau texte. Romains 4, 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Comme il est écrit au tableau, ce bonheur d'être pardonné par sa grâce, c'est ce qui nous pousse à vivre comme un disciple. Ce bonheur d'être pardonné par sa grâce, c'est ça qui nous motive, qui nous pousse à vivre comme un disciple. Toutefois, on doit se rappeler que l'Évangile, oui, c'est pour les pécheurs que nous étions, que nous sommes. Jésus va dire quoi sans tourner dans Luc 5, 32? « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » L'Évangile nous est significatif seulement dans la mesure où on réalise et on reconnaît que nous sommes encore pécheurs. Même si nous sommes de nouvelles créations en Jésus-Christ, je peux-tu vous annoncer un grand scoop comme journaliste? On pêche encore. Chaque jour. On a encore besoin de l'Évangile. Une fois sauvé. Non pas pour être sauvé à nous, on est sauvé pour toujours, mais on a besoin de se rappeler que si ce n'était que de ma performance au quotidien, ça ferait du mon affaire. J'ai été sauvé par grâce et je reste sauvé par grâce, et non par mes œuvres. Oui, on est de nouvelles créations en Christ, mais on pêche encore chaque jour en pensée, en parole, en action, puis peut-être encore de manière plus importante en motif. Et pour bénéficier de l'Évangile chaque jour, alors on doit reconnaître qu'on est encore pécheur. Ça m'inquiète tout le temps d'entendre qu'un chrétien dire, j'ai déjà entendu ça, entendu dire que quelqu'un l'aurait dit, un chrétien, ça ne pêche plus. D'ailleurs, l'Épître de Jean dira qu'une telle personne qui dit ça, il fait Dieu menteur. Puis... D'ailleurs, lorsqu'on pêche, le fidèle est juste pour nous pardonner de toute iniquité. Mais sans un rappel continuel des bonnes nouvelles de l'Évangile au quotidien dans nos vies, on peut tomber facilement dans l'une ou l'autre des erreurs suivantes. Si on manque à cette importante responsabilité de se rappeler l'Évangile au quotidien, et de ne pas dire, bon, l'Évangile, c'est pour les non-croyants, mais moi, aujourd'hui, c'est formation de disciples, puis service, puis sainteté, puis... Alors, si on manque à cette importante responsabilité de me prêcher l'Évangile au quotidien une fois sauvé, je risque de tomber dans l'une ou l'autre des erreurs suivantes. La première erreur, si jamais j'oublie de me prêcher l'Évangile au quotidien comme croyant, la première erreur, c'est de focaliser sur notre performance externe et devenir fier comme des pharisiens. C'est ça le danger. On peut alors commencer à regarder de haut ceux qui ne sont pas aussi disciplinés que nous, Tel chrétien, il ne lit pas souvent sa parole, puis là, l'autre, il ne vient pas souvent, il n'est pas régulier à l'assemblée, puis là, on commence à... Nous autres, il me semble qu'on est bons, comparé à l'autre. Il n'a pas l'air aussi obéissant que nous, l'autre, pas aussi engagé que moi, je le suis. Et on commence de manière très subtile à se sentir spirituellement supérieur à ceux-là. C'est le danger quand j'oublie la grâce dans ma vie. La seconde erreur est exactement l'opposé de la première, c'est le sentiment de culpabilité. Si j'oublie la grâce dans ma vie, c'est le sentiment de culpabilité, l'autre erreur dans laquelle je peux tomber. Imaginez, on sait qu'est-ce qu'on doit faire comme discipline de vie chrétienne, on sait qu'on doit lire notre parole, on sait qu'on doit être fidèle aux réunions de l'Assemblée, on sait qu'on doit prier. On est exposé aux disciplines de la vie chrétienne, aux disciplines de l'obéissance, du service. Puis dans nos cœurs, on le veut faire ça, puis on sait qu'on est bien disposé, puis on voudrait vraiment lire sa parole à chaque jour, puis être impliqué dans le service de Dieu, puis être fidèle aux réunions. Puis là, d'un coup, on voit bien que dans nos vies, bien, je ne lis pas aussi souvent la parole que je l'avais souhaité. C'est intéressant parce que souvent, quand je tombe en vacances, je me dis, là, je vais lire ma parole pendant mon mois de vacances. Puis, il me semble que c'est, dans ce temps-là, je la lis moins souvent. C'est incroyable, comment ça fait dur. En tout cas, je suis content de revenir travailler, ça m'aide plus à me discipliner. Alors, on a des bonnes intentions, puis là, tout à coup, c'est pas aussi fructueux que ça semble l'être chez d'autres croyants dans l'Église. Lui ou elle, ils ont l'air vraiment proches du Seigneur, puis spirituel, puis... Puis là, on se culpabilise lorsqu'on oublie de se prêcher l'Évangile de grâce. Ou encore, on se trouve à être aux prises avec certains péchés du cœur, tels que la colère, tels que le ressentiment, tels que la convoitise, tels qu'une attitude de jugement, puis on lutte peut-être encore avec des pensées impures ou avec de l'impatience ou un manque de foi, un manque de confiance à Dieu. Puis là, puis parce que j'ai remisé l'Évangile sur une tablette, me disant, mais ça, c'est pour les non-croyants, l'Évangile. Bien là, on lutte avec un sentiment d'échec et de culpabilité. On croit que Dieu est mécontent de nous. On croit qu'on vit encore sous le Deutéronome. Puis on ne s'attendrait certainement pas à sa bénédiction dans nos vies dans ces cas-là. Après tout, on se dit, on ne mérite pas sa faveur avec toutes ces luttes que j'ai dans ma vie. Quelqu'un m'a amené à l'Assemblée, ils hésitaient à prendre leur pas du Seigneur semaine après semaine, semaine après semaine, semaine après semaine, parce que la personne a dit, elle attendait d'être parfaite quasiment. Personne ne va prendre leur pas du Seigneur chaque semaine. Mais là. Le Seigneur nous amène à ne pas vivre, à ne pas pratiquer le péché, si on comprend ça, mais tu sais, je veux dire, je ne connais pas personne qui arrive au pas du Seigneur demain matin qui a vécu une semaine parfaite. Je me le montrerai, en tout cas, ça va être un phénomène incroyable. Ça va être inquiétant, même. Il risque d'être menteur, en plus. Mais lorsqu'on oublie la grâce de Dieu, puis lorsqu'on vit des moments difficiles dans nos vies spirituelles, parce que la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est sûr qu'on aimerait ça que ça soit toujours hein, le high, puis on s'en va, puis chou, tu sais, non, ça fait sonner. Tu sais, je veux dire, là, il y a des hauts et des bas quelque part. C'est ça, le Seigneur nous appelle une stabilité chrétienne, mais quand même des moments où on se décourage, des moments où on a des difficultés, des moments où on a des doutes, des luttes, des échecs. C'est Paul, moi, je suis donc content qu'il y ait Romains 7 dans la parole de Dieu, ça me soulage tellement. Que Paul, à un moment donné, il dit, moi, j'aimerais, je fais pas le bien que j'aimerais faire, puis je fais le mal que je veux pas faire. Il est comme nous autres, là, il est fait de la même nature que nous autres. Paul avait besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce. Et c'est pour ça le problème, c'est ça. Parce que nous focalisons souvent sur notre performance chrétienne, on oublie la signification de la grâce de Dieu. Et rappelons-nous, et je rappelle, la première erreur, c'est de focaliser sur notre performance externe et de devenir fier comme les pharisiens. La seconde erreur est exactement l'opposé de la première, c'est le sentiment de culpabilité. Et rappelons-nous toujours cette définition-là de la grâce. C'est la faveur imméritée de Dieu à ceux qui méritaient seulement sa colère. C'est ça, la grâce de Dieu. Les croyants de type pharisien pensent inconsciemment qu'ils ont gagné la bénédiction de Dieu à travers leur comportement. De leur côté, les croyants qui vivent sous le poids de la culpabilité sont pas mal sûrs qu'ils ont perdu la bénédiction à travers leur manque de discipline, leur désobéissance, leur infidélité. Et ces deux types de croyants ont oublié la signification de la grâce parce qu'ils se sont éloignés de l'Évangile et qu'ils ont glissé dans une relation de performance avec Dieu. Et ça, c'est subtil, mes frères et mes sœurs. Alors, la plupart d'entre nous, on entretient l'une ou l'autre de ces attitudes dans différentes journées. Dans une bonne journée, du moins, ce qu'on perçoit être une bonne journée spirituelle, je me lève le matin, je lis ma Bible, je témoigne cette journée-là, je prie, j'ai pas de mauvaises pensées trop, puis je suis pas pire, j'ai pas mal parlé, j'ai pas mal réagi, puis là, tu t'arrives le soir, waouh, t'es bon aujourd'hui. Alors, dans une bonne journée, du moins, ce qu'on perçoit être une bonne journée, nous tendons vers le pharisien et sa justice propre, l'aspect des bretelles. Et lors d'une journée pas si bonne, où j'ai pas lu, où ça a été mal, puis on en a connu des journées comme ça, spirituellement, là, on se permet de se vautrer dans un sentiment d'échec et de culpabilité. Hein, quelle sorte de chrétien que je suis? Puis on commence à se surculpabiliser parce qu'on a oublié l'Évangile. Puis dans les faits, c'est peut-être plus que des jours pas si bons. Des fois, c'est des semaines qui sont pas si bonnes, des mois qui sont pas si bons. T'sais. Mais que ce soit des semaines ou des jours, le problème est le même. Nous nous sommes éloignés de l'Évangile, de la grâce de Dieu. On a commencé à essayer d'être en relation avec Dieu sur la base de notre performance plutôt qu'à travers Jésus-Christ. C'est pour ça que je trouve ça tellement crucial de reprêcher la grâce. On est parti de là, la grâce. Restons dedans. Restons avec une vie basée sur la grâce de Dieu, pas tout à coup sur mes œuvres de performance. Une autre vérité. Depuis la chute, Dieu n'a jamais eu l'intention qu'on soit en relation directement avec lui. Et c'est pour ça que notre propre performance n'est jamais assez bonne pour lui à être acceptable. On est pécheur. On est privé de la gloire de Dieu. La seule façon que nous pouvons avoir une relation avec Dieu maintenant, depuis la chute, c'est à travers le sang et la justice de Jésus-Christ. Sans la croix, oubliez ça, les relations avec Dieu. Sans la croix, oubliez la réconciliation avec Dieu. C'est qui a ouvert le voile, qui a déchiré le voile entre Dieu et nous? C'est Christ, par sa mort. Quelle bénédiction incroyable qu'on a de s'adresser au Dieu trois fois saint sans se faire foudroyer. Quelle grâce incroyable. Ce matin, à grand-mère, on méditait sur... Moi, je suis toujours fasciné de voir le Seigneur Jésus, à tout bout de champ, être ému de compassion. Puis on sait que le terme littéral d'ému de compassion a rapport aux intestins, littéralement. Dans le fond, quand on lit que Jésus est ému de compassion, ses entrailles sont remuées. Tu sais, comme des parents qui sont inquiets pour un enfant malade, qui a une préoccupation envers quelqu'un qui aime, puis là, ça nous tord les boyaux en bon québécois. C'est ce que Jésus ressentait envers quelqu'un qui était malade devant lui. C'est ce que Jésus ressentait devant quelqu'un qui avait faim devant lui. Moi, ça m'a frappé ce matin quand je méditais là-dessus. Rappelez-vous, cette foule qui suivait le Seigneur Jésus, puis Jésus se tourne vers ses disciples, ça fait trois jours là, qu'ils n'ont pas mangé. Je suis ému de compassion. Hey, c'est une gang qui le suivait pour manger, tout simplement. Puis c'est une gang qui allait le crucifier quelques mois plus tard. C'est une gang qui ne croyait pas en lui pour la plupart, mais ça peut empêcher cette grâce providentielle. C'est plus fort que Jésus-Christ, cette grâce-là. Il fait luire le soleil sur les monts les méchants. Puis, je pense que c'est Luc 1, 78 qui va dire, il va parler des entrailles de la miséricorde de Dieu. Dieu, au ciel, a les entrailles remuées quand il nous regarde. Ça fait, c'est incroyable. C'est le sens de Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, ça y a pogné aux tripes, d'une manière imagée. Ça l'a tellement pogné au trip qu'il a décidé « Je vais sacrifier mon fils pour les sauver. » C'est de la grâce. Hein? Puis Jésus, qui est la grâce incarnée, lui-ci a les tripes. Les entrailles remuées devant la misère humaine. Puis moi, ce qui me frappe là-dedans, oui, puis ça peut quasiment se comprendre. Tu sais, quand on voit quelqu'un de malade, moi, quand je vois quelqu'un en chaise roulante ou handicapé, j'ai un petit quelque chose intérieurement, je trouve que ça fait pitié. Tu sais. Ou quand on voit quelqu'un qui est dans une misère quelconque, on peut avoir une certaine compassion, pas celle-là. Mais moi, ce qui me frappe du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'à un moment donné, c'est marqué que voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles parce qu'elles étaient languissantes et abattues. Ce n'était pas des besoins physiques qu'il regardait. Là. Il voyait le cœur de l'être humain qui est dans une errance totale, qui est dans un désespoir total. Puis ça, je ne l'ai pas, cette compassion-là, envers les incroyants. Bien souvent, on est... Moi, je parle pour moi, je suis indifférent vers les incroyants autour de moi. T'sais. Ils vont en enfer, puis à un moment donné, il me semble que je n'ai pas été boyau tordu quand j'ai pas ces sentiments-là de compassion, comme le Seigneur Jésus ému de compassion parce qu'il savait que ces gens-là étaient sans brebis et sans berger, des brebis sans berger, dira-t-il. C'est ça la grâce de Dieu, la grâce de Christ. C'est seulement le sang de Jésus qui va nous purifier d'une conscience coupable et qui nous donne la confiance d'entrer dans la présence de Dieu. Il y a un bon vieux cantique, là, je l'ai fait chanter à Trois-Virois cette semaine passée. Rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus. Il en a dit ce chant-là aussi. Si ce n'était du sang de Jésus, je ne serais pas ici ce soir. On n'aurait aucune raison d'être ici ce soir, on serait perdu. Christ a versé son sang. Parce que son Père avait les entrailles remuées pour me sauver. Puis il voyait ma misère, puis mon désespoir, puis le désespoir de l'être humain. Fallait-tu qu'il soit remué dans ses entrailles pour dire, je vais sacrifier mon Fils unique. Je vais l'immoler. Incroyable. Tournez avec moi dans Hébreux 10. Verset 19. Gardez la belle vérité. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, c'est ça le moyen, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps, la vie de nos purs. C'est seulement le sang de Jésus qui va nous purifier d'une conscience coupable et qui nous donne la confiance d'entrer dans la présence de Dieu, rien d'autre. Puis lorsqu'on l'applique chaque jour dans nos cœurs, bien, l'Évangile, cet Évangile par lequel on est venu à Christ, lorsqu'on l'applique chaque jour dans nos cœurs comme croyants, ça nous libère, ça. Et ça nous permet même d'être brutalement honnêtes envers nous-mêmes et envers Dieu. J'ai plus intérêt à essayer de déjouer Dieu par mes péchés, puis mes péchés secrets, puis non. L'assurance de son total pardon de nos péchés à travers le sang de Christ signifie qu'on n'a plus à jouer de jeu défensif plus jamais avec Christ et avec Dieu. On n'a plus à chercher à rationaliser, à excuser nos péchés. On peut dire qu'on a menti, plutôt dire qu'on a exagéré un peu la vérité. On peut admettre qu'on a un esprit rancunier qui ne veut pas pardonner plutôt que de continuellement blâmer nos parents pour notre détresse émotionnelle, t'sais, mettre ça sur le dos des autres. Non, tu es rancunier, c'est de ta faute. Tu as des problèmes, c'est de ta faute. On peut appeler le péché exactement tel qu'il est, indépendamment de comment il peut être laid, honteux, parce qu'on sait que Jésus l'a porté, ce péché-là, en son corps sur la croix. Mais péché passé, présent, futur, c'est réglé. Une fois pour toutes, rappelons-nous-le en nous prêchant l'Évangile au quotidien. Oui, confessons nos péchés pour garder une bonne communion avec notre Seigneur et Sauveur. Mais nos péchés, c'est réglé. Si je suis un enfant de Dieu, si je suis régénéré, si je suis né de nouveau, avec l'assurance d'un total pardon à travers Christ, on n'a plus maintenant aucune raison de se cacher de nos péchés et d'essayer de jouer avec Dieu. Non, non. Confesse-le ton péché. Il est fidèle et juste pour te le pardonner, pour me le pardonner. Mais peut-être dites-vous ce soir, est-ce bon de continuer de prêcher l'Évangile aux chrétiens qui pêchent encore et encore et encore et qui ne semblent jamais s'établir spirituellement? Est-ce que ce message ne les amènera pas à cesser d'essayer, justement? Ne diront-ils pas, c'est quoi l'utilité de lutter avec mon péché, mon manque de discipline? Je suis pardonné de toute façon. N'avons-nous pas besoin d'un petit peu d'une mentalité de performance si on veut se garder alerte face à notre engagement chrétien? À part ça, qu'en est-il de tous ces chrétiens indifférents qui ne luttent jamais avec le péché, qui manquent d'engagement envers Christ? Est-ce que cette emphase sur l'Évangile ne fera-t-il pas que les endurcir dans leur abus de la grâce de Dieu, dans leur attitude voulant que ce ne soit pas important la manière que je vis parce que Dieu m'aime inconditionnellement? On va considérer d'abord ce deuxième groupe de personnes, les abuseurs de la grâce de Dieu, parce que ça existe. Et c'est le danger de prêcher la grâce de Dieu en passant. C'est le danger de prêcher la grâce de Dieu. Il y a des chrétiens qui risquent d'en abuser. Est-ce qu'on doit s'empêcher de prêcher la grâce parce qu'il y a des abuseurs? Non. Mais c'est vrai que la grâce de Dieu peut être abusée. Tournez avec moi dans Romains 6:1. Romains 6:1. Paul va dire ceci, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Paul savait très bien qu'il y aurait des abuseurs de grâce, potentiels. Et après avoir exposé cette grâce qui nous justifie dans le chapitre 5, une justification qui s'obtient par la foi et non par les œuvres, Paul s'attend justement à ce que certains réagissent en se frottant les mains, en se disant « Puisque je suis sauvé par grâce et pour toujours, que je suis pardonné par grâce de tous mes péchés, là je vais pouvoir continuer de pécher avec qui mieux mieux. » Ouh! Partez commence. Et pourquoi cette question-là vient au chapitre 6, verset 1? C'est que Paul, qu'est-ce qu'il a dit au chapitre 5, verset 20? « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, gloire à Dieu, c'est une vérité, c'est la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors, à partir du moment où le péché a abondé, la grâce a surabondé, tu as toujours les petits comiques qui vont dire « Ben là, c'est peut-être une bonne nouvelle, ça. Donc, ça veut dire que je peux pécher comme je veux, puis Alors, c'est pour ça qu'il arrive avec cette question-là. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Puis d'ailleurs, dans ma série, il y a deux messages seulement sur l'argumentaire de Paul dans les versets 2 et suivants. C'est un jour je reviens, évidemment, mais c'est toujours. Le questionnement de Paul est légitime. Parce qu'il y en a qui vont dire, « Hey, c'est le temps d'en profiter, je suis pardonné pour toujours, je suis gracié, je peux faire ce que je veux. » Et l'argumentaire de Paul, quand on voit les versets 2 suivants, c'est extraordinaire, comment c'est impossible qu'un chrétien pense ça. C'est impossible qu'un vrai chrétien pense ça. Tournez avec moi dans Galates 5, 13. Galates 5, 13. Frère, vous avez été appelés à la liberté. C'est pas beau, ça. En Jésus-Christ, on est appelé à la liberté, à la libération de l'esclavage du péché. Seulement, là, il prévient, là, précaution. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Hein? Profitez-en pas pour faire ce que vous voulez. Paul savait très bien que certains voudraient profiter de cette liberté, de cette libération pour vivre selon la chair. Et Jude a même indiqué que cela arrivait déjà dans l'Église du 1er siècle. Mais on ne peut permettre que l'abus de la vérité par certaines personnes nous prive de sa valeur pour nous, spécialement quand cette vérité est si nécessaire à nos vies chrétiennes. Alors voilà pour les chrétiens indifférents, entre guillemets, au péché, ce qui est en soi une affirmation incohérente. Parce que si un chrétien dit chrétien puis est indifférent au péché, il n'est pas chrétien. Et ça, c'est l'argumentaire de Paul quand il développe Romains 6, 2 et suivant. Quant aux autres qui semblent jamais avoir la victoire sur certains péchés et dont le message libérateur de l'Évangile pourrait les convaincre de ne pas essayer d'avoir la victoire, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, le message de l'Évangile, peut-être ça va les inciter à ne pas avoir la victoire. La dernière chose que ces gens-là ont besoin, c'est d'avoir encore plus de culpabilité sur eux. Il y a peu de choses qui coupent autant le désir et les efforts sérieux de changer que le sentiment de culpabilité. Au contraire, être libéré de notre culpabilité à travers la réalisation de notre pardon à travers Christ, le fait de se prêcher l'Évangile lorsqu'on a des luttes chrétiennes dans nos vies chrétiennes, ça fortifie habituellement le désir de la personne de mener une vie plus disciplinée et plus sainte. Donc, la grâce, ce n'est pas un incitatif de côté à plus pécher ou à nous décourager à ne pas vivre une vie sainte. Non. Le message de grâce, c'est une incitation de libération dans la bonne direction. Et c'est ce désir approfondi qui va mener à une prière sérieuse pour l'aide du Saint-Esprit et à un effort diligent pour suivre la discipline et la sainteté. Quelqu'un a déjà dit, la discipline sans le désir, c'est une corvée. La discipline sans le désir, c'est une corvée. Qu'est-ce qui alors allume le désir dans nos cœurs pour mener une vie disciplinée et pieuse? Bien, c'est la joie, comme on l'a dit tantôt, de savoir que mes péchés sont pardonnés. Que peu importe comment je vais trébucher et tomber aujourd'hui, Dieu ne nous impute pas nos péchés. Ce n'est pas un encouragement à plus pécher, c'est un soulagement incroyable de reconnaissance envers cette grâce-là. Merci Seigneur, je peux me relever et continuer pour toi. Et Dieu voulant, mauvaise nouvelle pour vous autres, je suis réinvité le 23 au matin. Vous pouvez rester couché, mais le 23 au matin, Dieu voulant, je vais être ici avec vous. Et ce matin-là, je veux présenter c'est quoi cet évangile de grâce. C'est beau dire qu'on doit se la prêcher une fois sauvé. Mais c'est quoi vraiment l'évangile de grâce? On verra sept éléments qui constituent cet évangile de grâce. Puis je dirais même que si vous avez des contacts de personnes inconverties, amenez-les ce matin-là, parce que en déployant à travers un texte magistral de Romains 3, en déployant ces sept éléments de l'évangile de grâce, on touche, on prêche l'évangile, c'est pas compliqué. Alors, si jamais vous avez des contacts ce matin-là, je n'y vais pas le 23 septembre au matin. Dieu voulant, je serai avec vous. Ça me fera plaisir. On va terminer par un mot de prière. Seigneur Dieu, merci pour ce temps qu'on a eu dans ta parole. Ça passe vite, Père, lorsqu'on étudie ta parole, lorsqu'on médite sur ces vérités extraordinaires de notre libération par la grâce. Et Seigneur Dieu, j'espère que c'est une réalité que chacun ici a goûté personnellement dans sa vie. Tu connais les cœurs, tu connais chacun, tu te préoccupes de chacun, tu es venu mourir pour chacun. Père, qu'il y ait personne ce soir qui se prive de cette grâce et qui s'entête à dire non à Jésus-Christ ou à dire peut-être ou à dire à plus tard. Seigneur, on est tous pécheurs, on est tous condamnés à en enfer et c'est la seule chose que l'être humain pécheur mérite, c'est l'enfer. C'est aucunement cette grâce de voir Jésus-Christ prendre mes péchés sur lui comme il l'a fait. Et que par la foi seulement à son sacrifice, je suis sauvé une fois pour toutes, pour toujours, que mes péchés ne me sont plus imputés. Quelle libération! Et que comme sauvé, comme croyant, je puisse et que nous puissions nous prêcher l'Évangile de grâce au quotidien. Pour d'un côté ne pas se penser trop bon quand ça va bien, puis de l'autre côté ne pas se surculpabiliser quand ça va mal, spirituellement. Tu es un Dieu de grâce, un Dieu de bonté. Oui, tu es un Dieu aussi, d'un Père qui veut nous corriger aussi. Et Père, tu nous amènes aussi à confesser nos péchés pour garder cette bonne relation avec toi. Et on ne veut pas saisir ce message de grâce pour profiter de péché, ça serait mal comprendre l'Évangile. Et ce serait même peut-être mal comprendre le salut. Mais Père, fais qu'on puisse saisir ce message de grâce pour avancer pour toi, justement dans nos disciplines spirituelles, justement dans la sainteté, dans le service. Et fais-nous du bien, Père. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.